RCN 90.7 FM présente. Ce n'est que de l'amour. Animé par Daniel Conrad et Julien Gély.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de RCN, Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM, qui diffuse l'une des deux seules émissions à la radio en France aujourd'hui en 2011, consacrée aux lesbiennes, gays, bi et trans, et destinée au grand public. Ce n'est que de l'amour, l'émission qui se prend au mot.
Vous l'avez compris en écoutant la nouvelle version du générique, j'ai accepté avec grand plaisir et avec honneur l'invitation de Daniel à présenter, à co-présenter cette émission Ad Vitam Aeternam.
Bien sûr, et oui Julien, ainsi nous devenons le premier couple radiophonique ouvertement homosexuel de l'histoire de la radio en France.
J'ai quelque chose à dire, je veux parler.
Petit problème, c'est du direct, oui, c'est une amie de Julien.
Merci.
Qui s'appelle Lucie.
Lucie, c'est ça, bonsoir. Donc vous êtes le premier couple gay radiophonique de l'histoire de la radio en France. Ainsi, en tant que meilleure amie de Julien, j'ai décidé de vous unir, officiellement en direct. Vous me suivez, vous faites ce que je dis. Daniel, prenez la main de Julien. Raphaël, musique. Daniel Conrad, voulez-vous épouser radiophoniquement Julien Gély, ici présent?
Oui, je le veux.
Julien Gély, voulez-vous épouser radiophoniquement Daniel Conrad, ici présent?
Oui, je le veux.
Daniel, répétez après moi. Moi, Daniel Conrad.
Moi, Daniel Conrad.
Je prends pour époux radiophonique Julien Gély.
Je prends pour époux radiophonique Julien Gély.
Pour le meilleur et le meilleur de Ce n'est que de l'amour.
Pour le meilleur et pour le meilleur de Ce n'est que de l'amour.
Julien, répétez après moi. Enfin, répète. Moi, Julien Gély.
Moi, Julien Gély.
Je prends pour époux radiophonique.
Je prends pour époux radiophonique.
Voilà. Daniel Conrad, pour le meilleur et le meilleur de Ce n'est que de l'amour.
Daniel Conrad, pour le meilleur et le meilleur de Ce n'est que de l'amour.
Par les pouvoirs de l'amitié qui me sont conférés, je vous déclare officiellement mari et mari radiophonique. Vous pouvez embrasser le marié.
On le fera tout à l'heure pour la nuit de noces radiophonique que l'on se gardera, évidemment, de façon personnelle. Et puis donc, autour, j'ai réuni une équipe alors de Gremlins, mais surtout maintenant de témoins de ce mariage, évidemment, dont la reine est notre belle-fille, amoureuse des filles, mais surtout de sa chérie, c'est Donia Bentrad, bravo!
Bonsoir.
Mais aussi un petit nouveau, un John, c'est aussi le vice-président de RCN, c'est Didier Rousset.
Bonjour.
Notre caution intellectuelle hétérosexuelle, il nous en fallait bien un. C'est notre artiste préféré, c'est Sylvain Asselot, salut.
Salut.
Et aux manettes de l'émission, pour le direct, c'est notre panda le plus beau et talentueux du monde, c'est Raphaël Porra. Et pour les montages et enregistrements, c'est le retour de notre italien séducteur et ravageur, c'est Luca Schindamo.
Et dans notre émission de ce jour, nous allons explorer l'univers totalement méconnu tant par les hétérosexuels que par les homosexuels de la transidentité. Qu'est-ce qu'une personne transsexuelle? Qu'est-ce qu'une personne transgenre? Restez à notre écoute, car pour expliquer clairement tout cela, nous accueillerons dans l'heure qui vient Stéphanie Nico, présidente de l'association nationale TransAide.
Bonjour Stéphanie.
Bravo. Francesca Charon, trésorière de l'association TransAide, de l'association Equinox Nancy Lorraine et du collectif de la Marche des Fiertés Lorraine 2011. Salut Franny.
Bonjour.
Eric Schneider, psychiatre trans et cofondateur de l'association Transgender Luxembourg.
Et Erwan, trans et militant, découvert grâce à un reportage passé dans une émission de Jean-Luc Delarue et un des habitants de la maison de Secret Story 1 sur TF1. Et nous allons tout de suite commencer l'émission avec Sylvain Asselot. Tu nous as fait ta chronique et je crois que tu as quelque chose à nous dire. Tu as séché lamentablement.
J'ai séché par pudeur, par timidité. Je ne savais pas trop comment aborder, si on pouvait être drôle, lourd, sans que ça ait des connotations phobiques de quelque bord que ce soit. Donc, en d'autres termes, je me suis un peu chié dessus. Alors, heureusement, Daniel, au téléphone, alors qu'il était à demi-nu dans son bain, prenant son portable,
avec Julien.
Il pense souvent à moi, quand il est à demi nu dans son bain, m'a appelé et m'a dit, écoute, ce que je te propose, puisque tu n'y comprends rien au sujet, ou alors tu te documentes, ou alors tu fais un peu comme cette série Le Prisonnier, où le mec se retrouve en prison et il ne sait pas du tout ce qui lui arrive. Il ne comprend rien. Je me suis donc inspiré de ça, de cette idée, et Daniel. Et ensuite, j'ai tout compris.
Mais écoutons Sylvain Asselot, d'abord. Le Prisonnier.
Je suis habillé comme ça avec cette jupe. Et où suis-je ?
Au village.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Des renseignements.
Dans quel camp êtes-vous ?
Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements.
Vous n'en aurez pas, je ne sais pas ce qu'est un transsexuel.
De gré ou de force, vous parlerez.
Qui êtes-vous pour me juger ainsi ?
Je suis le nouveau numéro 2.
Qui est le numéro 1 ?
Vous êtes le numéro...
Transsex. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
Voilà Sylvain, on reviendra vers toi à la fin de l'émission pour savoir ce que tu as appris avec nos invités et eux et te poser quelques questions.
Ah mais je me suis renseigné, ça y est, d'une manière anatomique, biochimique, maintenant je suis incollable, je pourrais te donner toutes les réponses à tes questions.
Eh bien vas-y, on te laisse l'antenne pendant une heure. Merci Sylvain et tout de suite je laisse la parole à Julien pour le micro-trottoir.
Alors oui, pour le micro-trottoir, nos amis Didier, Donia et Ellie sont allés interviewer les Nancéennes et les Nancéens dans les rues.
Place Stanislas, c'est au centre commercial Saint-Sébastien, deux endroits bien différents.
Oui, c'est ça.
Et leur ont posé trois types de questions. Qu'est-ce qu'une personne transsexuelle ? Qu'est-ce qu'une personne transgenre ? Et les personnes transsexuelles célèbres qu'elles pouvaient connaître.
Alors on va peut-être écouter tout de suite les réponses à « Qu'est-ce qu'une personne transsexuelle ?»
Alors justement, à 21 ans, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un transsexuel ?
Oui, plus ou moins.
Alors c'est quoi ?
Un homme qui se déguise en femme.
D'accord.
Et qui se prend pour une femme.
Un transsexuel, c'est... C'est quelqu'un qui a... Qui a plusieurs sexes, ben, qui a un sexe féminin, un sexe masculin.
Transsexuel... quelqu'un qui a changé de sexe ?
Ah oh ben ça commence bien. Tu sais toi ? Bon bah non, je me tromperais je pense.
Bah essayez quand même.
Non bah écoutez non je... Je dirais une personne qui a deux sexualités mais je peux me tromper.
Bah quelqu'un qui d'apparence change de sexe.
Un transsexuel c'est quelqu'un qui s'est fait opérer. Donc qui passe par exemple d'un corps de femme à un corps d'homme.
Un transsexuel, c'est un individu qui ne se sent pas de son... qui est dans un corps mais qui se sent dans l'autre corps. Comme un homme qui est dans un corps d'homme mais qui sentirait être une femme ou une femme qui pense être un homme.
Qui n'accepte pas son sexe et qui veut en changer.
Ça doit être une personne qui se déguise, je pense.
Alors un transsexuel, je dirais que c'est un... Par exemple, un homme qui se déguise en femme.
Un homme qui se sent mieux dans le, qui se sentirait mieux dans le corps d'une femme, mm-hmm. Ou à l'inversement, d'ailleurs.
Mm-hmm. Un transsexuel est quelqu'un qui était d'un sexe et qui s'est fait opérer pour devenir de l'autre sexe.
Ah, un transsexuel, bah, c'est une personne qui a deux sexes, voilà.
Alors ça dépend de quel côté on se place. C'est soit un homme qui ne se sentait pas homme et qui veut devenir femme, soit une femme mais qui ne se sentait pas femme et qui un jour veut devenir homme. Et qui donc la transsexualité va l'amener à faire les démarches pour devenir homme ou pour devenir femme en fonction de son envie et de son ressenti.
Qui se reconnaît mieux dans l'autre sexe plutôt que celui qu'il ou elle avait au départ.
C'est pas super clair dans ma tête, mais je pense qu'un transsexuel est quelqu'un qui naît homme ou femme, et se sent femme étant homme et se sent homme étant femme et qui veut après mettre en conformité son ressenti et son corps.
Julien, tu as peut-être une question.
Bah oui, une petite question peut-être pour Donia qui a interviewé les gens, les Nancéens dans les rues. Bah, qu'est-ce que tu as pensé de leur réponse ? Que tu es surprise agréablement ou pas ? Je ne sais pas.
Bon, déjà, je suis partie avec un peu d'appréhension dans le sens où je me demandais comment ils allaient répondre à cette question. Mmh. C'est vrai que c'est pas commun comme question en plus. Et finalement, j'ai été surpris. On a rencontré des gens ouverts, des gens très compréhensifs et plutôt cultivés. Donc, j'ai été fière des Nancéens sur ce coup-là.
Je peux dire que par rapport effectivement à certains micro-trottoirs à Paris dans l'émission Je t'aime pareil, j'ai été moi aussi agréablement surpris, même si on voit qu'il y a quand même du boulot d'explication à faire, que l'on fera, oui Sylvain.
J'ai une question, il y a des gens quand même cultivés au Saint-Seb.
Dépend des heures, voilà.
Pas de préjugés.
Deuxième question, Julien. Qu'est-ce qu'une personne transgenre ?
Transgenre ?
Oui.
Aucune idée, je ne sais pas du tout.
Oh là là, ça se complique ça, faut que je me rappelle de mes souvenirs de la Gay Pride. Alors, un transgenre, on va mélanger les genres. Tout le monde se mélange. Plus on est de fous, plus on rit. Un transgenre, ça va être un... Alors, je pense que ça va être une personne qui ne va pas pousser, comme le transsexuel, ça démarre jusqu'à aller à l'opération esthétique. C'est une personne qui va rester dans son propre corps, on va dire, hein, mais qui, à ce moment-là, va s'habiller en femme ou va s'habiller en homme, hein, en ayant le comportement, mais pas forcément le désir de vouloir ressembler physiquement, hein, de passer à l'acte chirurgical.
Ah, ça, j'en ai pas la moindre idée.
Bonne question.
Aucune idée ?
Aucune idée, là.
Qui change de genre ?
Transgenre, c'est quelqu'un qui se travestit en homme ou de homme en femme.
Une personne transgenre ?
Une personne qui se pense de l'autre sexe mais qui n'a pas changé de sexe ?
Ça rejoint un peu la... Pour moi, c'est pas du tout éloigné du transsexuel.
Un transgenre, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'opération et qui se donne l'air d'un transsexuel.
Là, je sais pas trop. Parce qu'après, c'est une multiplication des termes. On n'y retrouve plus toujours ces petits.
Tout à fait.
Et je m'en fous de ce que c'est qu'un transgenre, je m'en fous complètement. Du moment que ça a deux yeux, un nez, une bouche, ça mérite du respect et de l'affection.
Très joli.
Wow, très joli, effectivement. Alors Didier, une petite réaction à ces réponses ?
Je vais rejoindre un petit peu ce qu'a dit Donia et l'appréhension que... Moi, j'avais quand même aussi une appréhension, notamment au niveau des jeunes, parce qu'on a eu pas mal de jeunes qui ont répondu, et j'avais une appréhension du style... qu'on serait un petit peu rejeté par rapport à ces questions-là. Et en fin de compte, l'accueil a été vraiment plutôt sympa. Bon. Oui. Et puis, ce qui m'a aussi étonné, c'est des dames, des personnes âgées de 60 ans, par exemple, qui nous expliquent qu'en fin de compte, eh bien, ils ont connu quelqu'un dans leur travail, enfin dans leur milieu professionnel, et qui acceptent très très bien et qui connaissent cela, quoi. Voilà. Donc c'était, pour une première, je pense que c'était formidable.
Oui, très bon.
Et alors, à propos de jeunes et de culture, enfin de culture entre guillemets, nous allons écouter les réponses sur « Connaissez-vous un ou une transsexuelle célèbre ?» Et là, c'est vraiment la culture TF1.
Il me semble qu'il y avait, dans Secret Story, il me semble qu'il y en avait un, je ne sais plus comment il s'appelle, Thomas, voilà.
FX. Lady Gaga.
Dans la télé-réalité, il y en a eu beaucoup, mais ils sont pas trop connus, quoi.
Lady Gaga, mais je suis pas sûr.
Transsexuel, je connais pas. Apparemment, Amanda Lear, oui.
Non, honnêtement, non, j'en ai pas. Non. Vincent McDo. Mais...
Là, ça ne me vient pas tout de suite, immédiatement, comme ça. Si je cherche, je trouverai sans doute. Là, je vois pas.
C'est le patron de L'Oréal ou d'une grande industrie pharmaceutique qui est aussi en... Pardon. qui vit en tant que femme maintenant.
Si, il n'y a pas McDoom.
Le type qui faisait dans l'émission, dans la ferme, là, comment il s'appelle, McDoom, là, Vincent McDoom.
Peut-être Vincent McDoom, non ? Je sais pas.
Alors, Stéphanie, une première réaction ?
C'est très curieux parce que c'est à la fois très sympathique globalement. On sent pas de haine, on sent pas de rejet violent, et c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc ça, c'est le bon point. Par contre, en effet, c'est un sujet récent et visiblement, ça se sent. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des gens qui sentent des choses, ils relient ça au corps, quasi tous. Ça, oui, ça montre qu'il y a vraiment un problème avec le sexe en France. Hein. Dès qu'on a le mot sexuel, c'est vraiment incroyable. Et peut-être que la troisième remarque que je ferai, c'est que finalement, les gens, c'est pas turgé du tout. C'est qu'ils connaissent assez peu, à part il y a une minorité qui connaît, mais la majorité confond, en particulier avec les travestis.
Ah oui, ça
c'est incroyable. C'est-à-dire que Vincent McDoom, on sait qu'il est gay, il s'habille en fille, mais il n'a rien d'une personne trans. Et pourtant, on le confond. C'est-à-dire qu'en gros, dès que vous habillez en fille, vous êtes soupçonné ou susceptible d'être transgenre ou transsexuel. Mon frère est un pur hétéro, il s'habille une soirée en fille pour faire. Voilà. Et puis aussi pour bousculer un peu les genres, il trouvait ça rigolo et intéressant. Ça a posé problème à personne d'ailleurs, et voilà. C'est pas pareil.
Alors, on reviendra tout à l'heure.
L'émotion.
On reviendra tout à l'heure, j'ai un chat dans la gorge, avec Franny pour les questions-réponses, et pour donner des pistes aussi de connaissances, des définitions. Et voici tout de suite, alors un trio de femmes trans qui ont repris la chanson « Être une femme » de ce vieux réac de Michel Sardou, et ça prend un tout autre sens.
Et nous nous tournons maintenant vers nos premières invitées de l'association TransCED, Association Nationale Transgenre, qui possède aussi une antenne à Nancy. vers Stéphanie Nico qui est présidente de l'association et vers Francesca Charon qui en est la trésorière. Alors première question à toi Francesca, peux-tu nous expliquer de la façon la plus claire possible pour nos auditrices et nos auditeurs ce qu'est une personne transsexuelle et une personne transgenre ?
Eh bien, tout à fait. En fait, j'aimerais aussi revenir sur le micro-trottoir qui était très significatif. Effectivement, quand on parle de personnes transsexuelles, on associe toujours le sexe aux organes reproducteurs. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, la différence entre une personne transsexuelle et transgenre, c'est qu'une personne transsexuelle fait une obligation de changer totalement de corps. C'est-à-dire qu'elle fait une fixation sur le corps et uniquement sur le corps et non pas sur ce qu'on appelle, nous, même dans la langue française, le genre qui est un genre social, un genre d'écriture, un genre de vie. Donc la différence entre transsexuelle et transgenre, la transsexuelle va miser tout sur le corps et non sur son genre social, donc le genre de destination, le genre qu'elle désire, alors que la personne transgenre fait le libre choix d'avoir la plus grande intimité de son corps. C'est une propriété privée, qui, je rappelle, n'est pas le cas en France.
Bien sûr.
Et c'est son choix privé, intellectuel, de choisir son genre. Et il faut respecter le genre de destination qu'elle a choisi. Mais ce n'est pas obligatoirement misé exclusivement sur les organes reproducteurs. On peut croiser facilement...
Donc sur les opérations, c'est ça que tu veux dire ?
Les opérations, donc organes reproducteurs, puisqu'effectivement, quand on parle de transsexuel opération, on va tout de suite penser à castration ou stérilisation. Donc c'est bel et bien, ce n'est pas une opération esthétique, une rhinoplastie, donc se refaire le nez ou les pommettes, c'est bel et bien, on parle bien d'organes reproducteurs. Or, qui, dans ce pays, va se balader sans culotte et sans pantalon? C'est personne. Donc c'est bel et bien du domaine du privé. Or, la personne transgenre fait office de son genre social déterminé qu'elle choisit et qu'elle assume en totale liberté.
Moi, j'ai une question. Il faut en revenir à l'acception du mot genre. Est-ce que c'est une donnée qui est biologique, génétique, qui est donc liée à la naissance, ou est-ce que c'est le fruit du libre choix?
Alors, la donnée, justement, la donnée transsexuelle, on parle bien, on va parler d'étymologie. Trans, c'est vraiment transmuter, c'est-à-dire de changer. Sexuel, ça porte bien son nom, c'est basé sur le sexe. Or, scientifiquement parlant, le sexe est une donnée biologique, c'est mâle ou femelle. D'ailleurs, pour vous, messieurs les garçons, sur votre passeport, il y a bien un M décrit. Ouais. M veut pas dire monsieur, veut dire mâle.
Oui.
Et sur les passeports féminins, c'est F, ça veut dire femelle.
Oui.
Or, le genre est une donnée sociale et sociétale. C'est masculin ou féminin. Donc, c'est une donnée de libre arbitre et de libre choix. Donc, être transgenre, c'est de la totale liberté.
D'accord, mais l'administration l'entend-elle comme ça quand on a par exemple un numéro, on va y revenir, je brûle peut-être les étapes,
okay. Juste une toute petite information pour nos auditeurs qui pourraient être aussi un peu dans le flou parce que c'est un domaine extrêmement complexe. En France, il y a une loi qui s'appelle le principe d'indisponibilité du corps, c'est-à-dire que aucun citoyen français n'est propriétaire de son corps. C'est l'État français qui est propriétaire du corps de chaque citoyen français.
Vivant.
L'État civil n'est pas modifiable, n'est pas changeable.
Nous allons revenir sur l'État civil.
Donc nous.
Alors, avant, justement, on va reprendre donc c'est pour Stéphanie, il existe un jargon qu'on emploie tous dans notre communauté, entre guillemets, LGBT, que nous aimerions pouvoir expliquer à ceux qui nous écoutent. Il y a F2M, M2F, up et non-up, THS. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ben, hop ou non-op, c'est clair, ça veut dire opérer, mais génitalement, parce qu'il y a des tas de façons, il y a des tas de gens qui font des opérations qui n'ont rien à voir avec ça. Mais encore une fois, c'est une obsession en France, pas seulement de l'État. Les gens sont très axés organes génitaux en France, c'est un peu bizarre, et je pense que peut-être on peut modifier ce genre de choses, justement. Donc, non-op, c'est non-opéré, opéré, c'est opéré. Mais encore une fois, les personnes transgenres, comme disait Francesca, peuvent très bien être opérées ou ne pas l'être. C'est privé, c'est une affaire privée. Donc cette séparation opérée-non-opérée, pour nous, elle n'a aucune importance. Et les personnes transgenres n'en parlent pas, sauf à leurs amis, à leurs proches. On n'en parle pas, on n'en discute pas. C'est une affaire de vie privée. On ne demande pas aux garçons la longueur de leur pénis. C'est des choses... Non, mais écoutez, c'est des données privées. Il faut parfois réaffirmer. Oui, mais en privé, pas en public, rarement pour un entretien d'embauche. Bon, voilà. F2M, c'est female to male. M2F, c'est male to female. C'est tout simplement des termes d'origine anglaise qui veut dire homme vers femme et femme vers homme. Là, par contre, tout le monde peut comprendre. Oui. C'est pour ça que les termes anglais, je les aime bien. Parce que ils ne parlent pas de sexuel. Ils donnent des informations concrètes et précises. Et du coup, on s'y retrouve là.
Et Francesca, une question. Qu'est-ce qu'une transition? Question importante.
Voilà, c'est un mot qui revient au niveau du mouvement trans.
Alors, une transition, donc effectivement, on va parler ça d'un point de vue justement personne transidentitaire. Donc transidentitaire, le terme transidentitaire regroupe toutes les personnes, qu'elles soient transsexuelles, transgenres, travesties ou maintenant genre fluide. Une transition, c'est simplement le fait de décider, on commence une transition le jour où on décide d'assumer qui on est et d'assumer notre liberté de choix. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est tout un parcours qui va nous permettre justement de faire sauter les verrous d'une certaine morale puritaine. Et je ne parle pas là de libertinage, je parle de simplement acquérir le choix de décider de sa vie, de gérer sa vie comme on l'entend, bien entendu, toujours dans le respect d'autrui. C'est-à-dire sans jamais entacher l'intégrité des personnes qui nous entourent. Mais malheureusement, enfin, cette morale qui nous tient au corps, c'est extrêmement, extrêmement difficile, difficile psychologiquement, le simple fait qu'on sort d'un carcan. Et on sort d'un carcan pour retrouver la liberté. Et la liberté, c'est toujours quand même un choc très, très violent, puisqu'on n'a plus aucun cadre. Et c'est à nous de reformer nos cadres dans la société pour pouvoir vivre en société. Donc une transition, certains et certaines vont dire, voilà, bah une transition, moi, c'est quand je vais me faire opérer. Ça, c'est bien souvent les transsexuels qui misent tout sur le corps. Pour ma part, personnellement, je vais donner mon point de vue et mon expérience personnelle. Moi, faire une transition, c'est le jour où j'ai choisi de changer de genre, donc de passer au genre femme, genre femelle, et de dire tout simplement, le jour où j'irai chercher mon pain le matin à 6h du matin, en jogging, basket, pas maquillé, pas coiffé, qu'on m'appellera madame, j'aurais fini ma transition. Donc ma transition a été finie lorsque j'étais accepté socialement dans le genre féminin. Et peu importe pour moi, peu importe les papiers, peu importe l'État, peu importe la législation, ce sont les citoyens qui m'entourent, la population, mes amis, ma famille. Et en étant soi-même aussi, en faisant le choix de vivre sa vie comme on l'entend et d'être heureuse ou heureux, eh ben on rend heureux tous nos proches, malgré les difficultés à faire sauter quelques barrières, mais avec beaucoup d'explications, beaucoup d'amour et beaucoup de compassion, on y arrive très facilement.
Et deuxième question, à Stéphanie cette fois, quelles sont les étapes de la législation en vigueur en France lorsqu'on est trans et lorsque l'on décide de faire sa transition complète?
Mais c'est tout le problème, c'est qu'il n'y a pas de législation en France. Il n'y a pas de loi. Alors c'est peut-être une liberté aussi, c'est qu'on n'est pas à contrainte, parce qu'il y a des pays, des lois, où la loi vous stérilise obligatoirement, la loi vous oblige à passer par les hôpitaux psychiatriques, et ainsi de suite. Je veux dire, ça peut être abominable dans certains pays, ça l'a été en France. Ça n'est pas encore très heureux, on le verra. Non, je crois que surtout, ce qui me semble essentiel, c'est qu'il n'y a pas de loi, c'est qu'il y a un vide juridique total. Donc la seule référence juridique, c'est le fait qu'on ne peut pas changer librement, toucher librement à son corps. L'État en est propriétaire, c'est l'indisponibilité de l'État. Ça veut dire qu'il contrôle totalement l'État civil. On ne peut pas modifier notre État civil. Si on a un État civil masculin, eh bien, l'État nous oblige à l'avoir, y compris quand on a changé concrètement de sexe, c'est-à-dire par la reconnaissance, changer de genre, en l'occurrence, par la reconnaissance des autres, et parfois même, on peut très bien faire des opérations, changer notre corps, avoir des seins, j'ai envie de clitoris. Non, on a toujours des papiers masculins. Ça ne garantit pas, donc ça montre bien qu'il n'y a aucun rapport entre le corps et les papiers. Ça, c'est extrêmement frappant. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a les intersexes. Les gens confondaient tout à l'heure les trans, alors je parle de toutes les catégories, avec les intersexes, les gens qui ont les deux sexes. Personne transgenre n'ont pas les deux sexes, ils ont un sexe biologique de départ, comme tout le monde. C'est le hasard de la génétique et des parents. Mais les intersexués, il y en a plein, entre 1 à 2% en France, et puis certains d'entre eux ont deux sexes, ceux-là c'est les hermaphrodites, et ceux-là c'est beaucoup plus rare, c'est quelques centaines de personnes en France, et quelques dizaines naissent chaque année. Voilà, donc, il n'y a pas de loi, il y a un arbitraire total, sauf que quand vous avez changé de genre, que vous êtes accepté par les autres, mais que vos papiers sont restés comme ils étaient, eh bien vous êtes pour tout le monde Madame Stéphanie Nico, par exemple, ou Madame Francesca Charon, or vos papiers sont masculins, donc dans un aéroport, bonjour madame, on regarde votre passeport, c'est pas vous. Ça nous est arrivé d'être contrôlé, de voir l'avion qui tournait sur la piste, et on attendait 10 minutes, les gens derrière aussi, parce qu'ils vérifiaient les ordinateurs, ils vérifiaient les papiers, y compris à l'étranger, parce que ça correspondait pas. Ça veut dire que les gens savent que vous êtes transgenre automatiquement. Ça veut dire que si vous cherchez un boulot, vous avez un numéro de sécu en 1, les gens, ils savent, c'est T sur le front. Alors vous savez bien que quand vous êtes issu de l'immigration, vous avez du mal à trouver du boulot, hein, parce que ça se voit sur votre figure. Hein, vous êtes la minorité visible. Eh bien, nous, de fait, on ne l'est pas au départ pour la majorité d'entre nous, sauf qu'on devient, comme nos amis arabes et noirs, on devient des minorités visibles parce que nous, on a le T sur le front à cause des papiers. Nous, notre couleur de peau, c'est le T. C'est l'absence, justement, de changement d'état civil libre et gratuit. Et c'est ça qu'on revendique, tout simplement.
Alors, une question un peu choc, Francesca. L'OMS considère toujours la transsexualité comme une maladie mentale, comme elle était l'homosexualité, encore il n'y a pas si longtemps que cela.
Ah oui, effectivement. Donc, l'OMS considère le transsexualisme masculin ou féminin. Donc, il faut bien aussi préciser que, pour nos chers amis de l'OMS, ils parlent toujours d'une personne transidentitaire, transsexuelle ou transgenre, par le sexe d'origine. C'est-à-dire que quand vous avez un homme qui devient une femme, on l'appelle toujours monsieur. Donc, déjà, ça met bien dans l'ambiance. Et on considère toujours le transsexualisme comme une maladie mentale soumise à soins. C'est-à-dire que voilà, on doit suivre des protocoles de soins pour être soigné. Comme effectivement les homosexuels, il y a pas si longtemps que ça,
tout à
parce
fait.
Que une vingtaine d'années, c'est très court. Mais je rappelle aussi que, notamment pour changer d'état civil, je reprends sur ce qu'avait dit Stéphanie, c'est qu'il faut impérativement fournir un certificat de stérilisation chimique ou chirurgicale désormais en France. Donc, en résumé, nous sommes des malades mentaux. Et pour changer d'état civil, nous devons être stérilisés. C'est bizarre quand même, stériliser les anormaux, ça me rappelle quand même quelque chose.
Moi aussi. Merci Franny. Je t'appelle Franny dans la vie, autant que je le fasse aussi au studio.
Pas de soucis.
Alors, nous allons tout de suite passer. Alors, on me fait signe, notre ami Raph en régie me fait signe que nous avons en direct Erwan. Erwan, bonsoir.
Bonsoir.
Tu as réussi à nous appeler quand même.
Oui, je suis dans une salle d'attente, c'est un peu délicat, mais on va y arriver.
D'accord. Alors, juste avant, je te fais écouter un petit quelque chose qui va te rappeler des souvenirs.
Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Alors, méfiez-vous des apparences.
Alors oui, Erwan, on t'a présenté en début d'émission. On a dit que tu étais apparu dans un reportage pour une émission de Jean-Luc Delarue qui avait, j'allais dire, fait beaucoup de bruit à l'époque et qui avait aussi permis aux gens de découvrir ta personnalité. Et que tu étais rentré dans la maison des secrets de Secret Story 1, donc diffusé sur TF1. Nous en reparlerons un tout petit peu après. Erwan, la première question, et le plus intéressant peut-être, c'est que tu te présentes toi-même aux auditrices et aux auditeurs.
Ben, que dire, un jeune homme de 23 ans, étudiant infirmier en dernière année. Je croise les doigts, là, plus de 2 mois, et normalement, j'ai mon diplôme. Ben, hormis ça, c'est vrai que j'ai un parcours qui sort un petit peu de l'ordinaire, comme j'ai pu l'expliquer dans l'émission de Secret Story ou comme dans l'émission de Jean-Luc Delarue. Maintenant, hormis de ça, ben, je vis une vie tout à fait normale d'un jeune de mon âge, voilà.
Oui, parce que peux-tu nous rappeler ton âge et nous rappeler à quel âge tu as décidé de faire ta transition?
Alors, ben, j'ai 23 ans, donc j'ai décidé de faire ma transition. Déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci à l'âge de 7 ans. Maintenant, une transition ne peut débuter avant la majorité. Donc, j'ai entamé les procédures à l'âge de 18 ans.
À l'âge de 18 ans. Et donc, tu... Alors, dans Secret Story, c'est un peu particulier. Tu es rentré véritablement pour, non pas pour, comme beaucoup de candidats à cette heure-ci, avoir la gloire, la célébrité, la richesse, mais vraiment pour faire passer le message sur la transidentité en général, et que tu es vraiment un personnage atypique de la télé-réalité. C'est que tu étais gentil, tu expliquais, et que, moi je me souviens parce que je suis pas un fan, mais que tu n'étais pas dans ce système de complot et de choses comme ça. Alors quel souvenir tu as de ces 7 semaines que tu as passées dans la maison sur TF1?
Moi, j'ai des bons souvenirs. D'ailleurs, vaut mieux en avoir des bons que des mauvais, parce que je peux pas faire marche arrière. C'est vrai, j'ai participé à cette émission pour montrer que je suis quelqu'un comme les autres, que je vis pas en clan, que je suis pas un malade mental. Voilà, montrer tout simplement aux gens que dans la vie quotidienne, je suis comme tout le monde et je pense avoir réussi. Donc, mon objectif, c'est personnellement me semble atteint.
Et bonsoir Erwan, je te pose la question suivante. Depuis la fin de cette aventure, qu'es-tu devenu pour donner des nouvelles à toutes les personnes nombreuses qui t'avaient pris en affection?
Ce que je suis devenu, bah, de toute façon, j'ai repris mon quotidien, ma vie quotidienne. De toute façon, j'ai pas participé à l'émission pour faire du showbiz par la suite. Donc, faut savoir que je passais mon bac l'année où je suis passé dans Secret Story. Donc, quand je suis sorti, j'ai repris mes études, même si ça n'a pas forcément été évident. J'ai repris mes études, j'ai passé mon bac, je l'ai réussi. Et après, donc, j'ai poursuivi mes études infirmières.
Voilà, c'est ce que j'allais y venir. Tu fais des études d'infirmier. Alors, est-ce que c'est aussi pour rendre et aider les autres?
Je pense que, de toute façon, toutes les personnes qui se dirigent vers le social, inconsciemment ou consciemment, c'est pour pouvoir aider son prochain. Donc, c'est certain que quand j'aurai mon diplôme, je ferai du moins tout mon possible pour pouvoir aider les autres.
Et justement, quel message aimerais-tu faire passer à tous les jeunes qui sont peut-être trans et qui n'osent pas franchir le pas et le dire?
Qu'il faut le faire, que même si c'est dur, même si on a peur que nos parents nous tournent le dos ou la famille, il faut se rendre compte et être conscient justement que c'est son bonheur, c'est sa vie. Donc les parents, ok, ils nous ont mis au monde, etc. Mais je pense que quand on fait un enfant, la première chose qu'on souhaite, c'est son bonheur. Donc si le bonheur, c'est quelque chose qui leur plaît pas, avec le temps, je pense qu'ils se feront une idée. Et il faut tout le temps garder la tête haute et se lancer.
Et si tu avais un message pour les auditeurs et les auditrices qui, certes, commencent à comprendre un petit peu avec cette émission, mais pour, un message d'espoir, ou tout au moins qu'ils essayent de comprendre?
Qu'il faut être ouvert d'esprit, il faut faire preuve de compréhension, ne pas se mettre de barrières, on va dire, et puis s'intéresser aux choses qui sortent peut-être de l'ordinaire, mais qui, comme moi par exemple, c'est une souffrance, et savoir reconnaître cette souffrance.
C'est très bien, Erwan. Écoute, nous allons nous quitter. Je veux vraiment te remercier parce qu'on a travaillé plusieurs fois par téléphone sur cette émission. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation.
De rien, merci à vous plutôt.
Et je sais que tu te plais dans tes études, que tu te plais avec ta chérie et avec tous tes amis. On t'embrasse très fort, Erwan. Merci.
Moi aussi, je vous embrasse.
Et nous allons passer tout de suite à une autre chanson par David Pilarski. C'est une réinterprétation, là aussi, d'une chanson, ça s'appelle « Sans contrefaçon ».
Je n'en fais qu'à ma tête. Un mouchoir au creux du pantalon. je suis un garçon. Et pour un empire, je ne me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Puisqu'il faut choisir un mot d'où je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Puisqu'il faut choisir un mot d'où je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon.
Et à présent, une interview réalisée il y a quelques jours par Daniel, d'Eric Schneider, qui est psychiatre trans et cofondateur de l'association Transgender Luxembourg.
Eh bien oui, ce soir, avant d'accueillir notre nouvel invité, j'aimerais quand même dire à tous les fans et à toutes les fans, d'ailleurs de notre grand et célèbre Lucas Shindamo, que c'est lui qui réalise cette interview enregistrée quelques jours avant ce direct. Bonjour mon petit Lulu.
Bonjour mon Daniel, bonjour à tous.
Voilà,
je pense. Et oui, que ça... je ne suis pas mort.
Voilà. Et bon, tu nous manques, hein. Bon, Raphaël est très bien, mais toi tu nous manques quand même.
C'est gentil.
Et j'ai le plaisir donc d'accueillir par téléphone le docteur Eric Schneider, qui est psychiatre. Bonjour Eric.
Bonjour.
Et cofondateur aussi de l'association Transgender Luxembourg. Alors cher Eric, la première question qui me vient à l'esprit, c'est, je viens de te présenter en quelques mots rapides, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi, tant au niveau personnel que professionnel ?
Ah oui. J'ai toujours été perçue comme étant différente. À ma naissance, à l'hôpital, les infirmières m'ont traitée différemment des autres enfants à cause de la couleur de ma peau et de mes yeux, qui étaient plus foncés parce que mon père était indien et ma mère allemande.
D'accord.
Pour cette raison, j'ai grandi avec le sentiment d'être différente et le fait d'être trans est venu s'y ajouter plus tard. Et au niveau professionnel, comme vous l'avez dit, je suis psychiatre et certains collègues ont eu du mal à accepter que je me positionne en dehors de la binarité femme-homme. Mais pour les patientes, au contraire, ce n'était pas un problème.
Voilà, bah tu viens de résumer beaucoup de choses que l'on va aborder dans les prochaines questions. Nouvelle question. Pour toi, et en tant que spécialiste et psychiatre et trans, quelle est ta définition de la transidentité ?
C'est difficile. Je vais vous proposer une définition de la transidentité, mais la terminologie n'est pas encore uniforme. La transidentité, c'est le fait de posséder une identité de genre ne correspondant au sexe assigné à la naissance et aux attentes sociales associées à ce sexe. C'est un terme formé par opposition à celui de transsexualité pour souligner qu'il s'agit d'identité et non pas de sexualité. C'est important à faire cette différence.
Donc vraiment une différence entre, j'allais dire, le sexe, le genre et la sexualité ou l'orientation sexuelle, c'est bien ça?
Et identité de genre, c'est aussi un troisième fait, parce qu'on fait, ou la société fait en ligne entre les organes génitaux d'un côté et les attentes qu'une personne se développe d'une certaine identité de genre et avec ça qui accepte un certain rôle social.
D'accord. Alors, tu es trans et psychiatre. Cela a-t-il changé ta vision et ton approche de la psychiatrie par rapport à tes autres collègues?
Oui. La notion de normalité joue un grand rôle en psychiatrie. Nous posons des diagnostics en fonction de la faculté de penser et du comportement des personnes. Qu'est-ce qu'une façon de penser ou un comportement normal, il faut demander qu'est-ce qui est anormal et qu'est-ce qui est pathologique. Dans ce contexte, on peut se demander si le transsexualisme est une pathologie mentale. Lorsqu'une personne ne se définit pas comme la société s'y attend d'après son anatomie, s'agit-il d'une maladie ou est-ce que c'est la conséquence d'une construction mentale? d'une construction sociale. Mm-hmm. Mon contact avec les patients est différent parce que je suis perçue comme différente des autres psychiatres par les patients. Le fait d'être trans n'est pas probablement qu'un aspect de ma différence. Alors les patientes ont senti, ok, le psychiatre est autrement, mais c'est plus ou moins la question travailler avec la responsabilité et être, je me sens mieux plus qu'un être un avocat d'un patient qui peut donner des avis que dire tu dois faire ça ou ça.
Ouais, plus qu'un juge, tu es plus l'avocat que le juge.
Oui. Oui.
Mais écoute, moi je...
Notamment, par exemple, en Allemagne, au Luxembourg, même en France, la responsabilité d'une personne d'atteindre un trouble psychiatrique est vraiment très limitée. C'est pourquoi le système psychiatrique réagit d'une façon très, très limitante par rapport aux personnes transsexuelles qu'on n'autorise pas à décider seules de modifier leur corps. Ils n'ont pas la possibilité à dire « je veux des hommes, mais pas des opérations » ou « je veux certaines opérations, mais pas les hommes », etc.
D'accord. Nous en parlerons d'ailleurs, et nous en avons déjà parlé un peu avant, et nous en parlerons toujours après avec nos amis de TransAide que tu connais, l'association TransAide.
Oui, bien sûr.
Et tu es toi-même cofondateur de l'association Transgender Luxembourg. Est-ce que tu peux nous présenter ton association et les actions qu'elle mène tout au long de l'année ?
Transgender Luxembourg est le premier groupe transgenre au Luxembourg et notre objectif c'est d'améliorer la situation des personnes trans et leurs proches au Luxembourg. Et au niveau individuel, nous offrons un soutien personnalisé aux personnes trans et à leurs proches. Nous animons notamment un groupe d'entraide mensuel et nous sommes aussi contactés par les médecins, les psychologues, par les juristes. Les questions qui nous ont été posées, par exemple, par les médecins et des psychologues concernaient les jeunes trans, notamment les jeunes trans, c'est intéressant pour nous. Mmh. Au niveau plus global, nous menons des actions de sensibilisation auprès du monde politique, des professionnels et des grands publics. Par exemple, nous mettons l'accent sur la discussion scientifique pour mettre en cause les idées prénoncées sur les personnes trans et sur les stéréotypes concernant les hommes et les femmes. Et dans ce but, en 2010, nous avons organisé un colloque interdisciplinaire intitulé « Tous les genres sont dans la nature, mais pas égaux devant la loi oui. », aussi avec le soutien de TransAide. Et par exemple, cette année, nous organiserons un autre colloque en coopération avec l'Université de Luxembourg, le 9 juillet, intitulé « Identité au-delà des faits et des idéologies. Et ça s'adressera à toutes les personnes qui travaillent sur le phénomène de discrimination en matière d'identité de genre et orientation sexuelle. Et nous attendons des psychologues, médecins, enseignants, juristes, etc. Alors, on essaye de travailler au niveau scientifique pour clarifier quelles sont les idées d'une société concernant hommes-femmes, les personnes trans et quels sont vraiment les faits. Et avec ça, au niveau politique, on a des... on discute avec nous au même niveau, avec la politique par exemple.
Oui, c'est ce qui est à faire, j'allais dire dans tous les pays, toi au Luxembourg et dans d'autres pays, mais nous aussi en France, c'est véritablement l'enjeu très très fort, discuter avec les politiques pour faire avancer les choses.
Oui.
Alors, Eric, le temps nous est compté. D'ailleurs, nous mettrons toutes les adresses pour contacter Transgender Luxembourg sur les sites de la radio TransAide, bien évidemment sur son site, mais aussi sur le site l'étoilerose.net où vous pouvez retrouver l'émission en podcast. Une dernière question, Eric, as-tu un message et des conseils à adresser à celles et ceux qui nous écoutent à cette heure-ci et qui sont peut-être trans et qui n'osent pas en parler ?
Peut-être j'ai deux trucs. Ne restez pas isolés et prenez contact avec les associations trans. Il est toujours possible de prendre contact de façon anonyme. Et le deuxième, ne vous laissez pas enfermer dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Sentez-vous libre de vous définir dehors des catégories femmes-hommes, si c'est ça que vous convient.
Bien, merci Eric, et merci d'être l'avocat et d'aider toutes les personnes trans. Continue à le faire, et j'espère qu'un jour on aura le plaisir de se rencontrer en direct grâce à nos amis de TransAide. Je te souhaite une bonne soirée, et te remercie beaucoup. Alors Sylvain, Julien et moi, on a une question à te poser. Qu'as-tu retenu pour l'instant de cette émission ?
Alors, avant
en tant
de dire,
que spécialiste.
Avant de dire ce que j'ai retenu, tout d'abord, je suis très content. À 200 euros l'émission, je suis toujours content. Je te remercie.
Intermittent du spectacle.
Voilà. J'ai retenu que la communauté trans était gênée par le thé. Je leur conseille donc de se mettre au café. Ça, c'était pour la blog. Elle...
Bravo.
Non,
bon, tu l'as
à propos de l'émission, j'ai trouvé que c'était super explicatif, et c'était d'abord ça qui était important, parce qu'il faut d'abord comprendre pour que ça puisse rentrer dans les mœurs. Le combat, c'est une chose, mais s'adresser aux gens d'une manière didactique pour leur faire comprendre, c'en est une. Et là, je pense que tu as bien réussi ton coup, parce que là, ça a éclairé nos lanternes. Ensuite, ça ne veut pas dire que le combat doit cesser, le combat est là, ça c'est autre chose. Mais d'abord, du point de vue informatif, cette émission était une réussite.
Merci.
Du point de vue d'Audimat, je ne sais pas.
En tant que producteur, je double ton salaire.
Merci beaucoup.
Et avant de retrouver tout le monde et de faire un dernier tour de table, je vous propose là une chanson pour enfants d'un groupe qui s'appelle Zut. Donc pour les enfants, ça s'appelle « Fille ou bien garçon ».
Je m'appelle Théo et j'aime les poupées, surtout celle aux cheveux frisés. J'adore jouer à les coiffer, mais mon papa trouve que c'est suspect. Au lieu de m'offrir un sèche-cheveux, j'ai eu un camion à gros pneus. Mais bof, bof, bof. Mais bof, bof, bof.
Je m'appelle Manon et j'aime les voitures. J'adore faire rugir les moteurs. Je rêve de conduire un tracteur. Ma maman dit que c'est contre nature. Au lieu de m'offrir un circuit, on m'achète une poupée Barbie. Mais bof, bof, bof. Mais bof, bof, bof.
Y'a pas de zizi à mes outils. Pas de zizi à mes outils.
Y'a pas de zézette à ma poussette.
Pas de zézette à ma poussette. Que l'on soit fille ou bien garçon. Que l'on soit fille ou bien garçon.
On peut shooter dans le même ballon.
On peut shooter dans le même ballon.
Que l'on soit fille ou bien garçon. Quand on me demande que veux-tu faire plus tard, je réponds garde forestière, pilote d'avion ou bien pompière,
babysitter ou même coiffeur de star. On voit plutôt vétérinaire,
et moi bien sûr en infirmière.
Mais bof, bof, bof. Mais bof, mais bof, bof, bof. Pas de zizi à mes outils. Y'a pas de zézette à ma poussette. Pas de zézette à ma poussette. Que l'on soit fille ou bien garçon. Que l'on soit fille ou bien garçon.
On peut shooter dans le même ballon.
On peut shooter dans le même ballon.
Que l'on soit fille ou bien garçon. Bof,
mais bof, mais bof,
bof, bof,
mais bof,
mais bof, bof,
bof, bof,
bof. Ce soir papa nous a fait à manger. Pour une fois que c'est arrivé, c'était bon, on s'est régalé.
Mais quand maman à la fin de sa journée
s'assirait bien sur le canapé, y'a tout le linge à repasser.
Y'a pas de zizi à mes outils. Y'a mes outils. Y'a pas de zézette à ma poussette. Pas de zézette à ma poussette. Que l'on soit fille ou bien garçon. Que l'on soit fille ou bien garçon.
On peut shooter dans le même ballon.
On peut shooter dans le même ballon.
On peut chanter la même chanson.
On peut chanter la même chanson.
Que l'on soit fille ou bien garçon.
Alors, même question à nos amis de TransAide. Qu'avez-vous pensé de cette émission, Francesca, peut-être d'abord?
Oui, bah, j'espère aussi que Stéphanie et moi, nous avons été assez clairs aussi pour expliquer. Et effectivement, ça confirme par rapport au micro-trottoir, par rapport à tous les gens qui nous entourent, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail d'explication à faire. C'est un domaine encore très, très méconnu. Et puis, j'ai été très touché par le témoignage d'Erwan et je rejoins parfaitement ce qu'il a dit. C'est oui, faites-le, mais j'irai un peu plus loin que lui, c'est décidez de votre vie. Choisissez votre vie, vivez-la comme vous l'entendez et respectez les autres.
Et Stéphanie, alors le 4 juin à Nancy, mais partout en France, il y aura la marche des fiertés. C'est la dernière avant les élections présidentielles de 2012.
Absolument.
Alors, quelle revendication la communauté trans a à faire avec évidemment la communauté LGB?
Bah, d'abord les mêmes, c'est-à-dire qu'on revendique le droit au mariage sans s'occuper de savoir quel était le sexe ni d'origine ni d'aujourd'hui, liberté du mariage pour tous. On réclame le droit à l'adoption et la procréation médicalement assistée pour avoir des enfants pour tous. C'est l'amour qui compte, hein, c'est le titre de votre émission. Ouais. En fait, on réclame les mêmes droits républicains pour tout le monde sans s'occuper de leur sexualité, de leur identité de genre. Ça paraît, mais on est au 21e siècle, il faut encore arriver à convaincre des gens. Les Français sont majoritairement convaincus aujourd'hui. Ça, moi, je suis quand même né dans les années 50, hein, et je peux dire, je ne le cache pas.
Oh, tu ne les fais pas.
De toute façon, tu es très gentil et démago, mais ce que je veux dire quand même, c'est que la société française a changé, et peut-être sur le plan social, c'est plus dur, mais sur le plan personnel, c'est beaucoup mieux pour les gens. On a plus de possibilités de liberté. Ce qu'on voudrait avant tout, nous, transgenres, on défend aussi nos copines transsexuelles, c'est que toute personne puisse changer d'état civil librement et gratuitement. Voilà, avec deux témoins enregistrés. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile que de payer des gens en dépression, au RMI, au RSA pendant des années, ou comme moi, 5 ans à rester chez moi, payé par l'éducation nationale, parce qu'il y avait un décalage entre mon apparence et mon identité.
Et ça n'engorgerait pas les tribunaux. Malheureusement, ils se plaignent qu'il y a énormément de dossiers. Et effectivement, le fait de passer devant une procédure judiciaire pour changer d'état civil, c'est encore un peu plus de boulot pour nos magistrats qui ont peut-être autre chose à foutre que de s'intéresser à un état civil de transgenre.
Sans vouloir me faire l'avocat du diable, si les gens commencent à changer d'état civil comme de chemise, ça peut être problématique. Alors, ça serait une fois irréversible ou...
La réponse, elle est simple. Ouais. C'est qu'à part des gens qui ont des troubles, ou exceptionnellement des gens qui se rendront compte qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont changé, qu'ils veulent revenir en arrière ou modifier, mais ça sera des cas exceptionnels. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas, ces cas exceptionnels.
Ouais, okay.
Je les accepterai. Quelle importance? À partir du moment où c'est enregistré, que c'est connu. Et puis, quel est le problème, finalement? Le problème, c'est avec les voisins, la famille, les parents, les gens avec qui on bosse. Si on faisait ça tous les 6 mois, je pense que les gens ne s'y retrouveraient plus. Donc, en pratique, personne ne fera ça, à part une fois sur 1000, ou sur 10 000, ou sur 100 000. Mais ouais, là, okay. Ça ne ressemble plus à rien, ça n'est plus un problème. C'est facile, finalement, et c'est simple.
Donia, qu'as-tu, là aussi, on en a parlé dans la préparation d'émission, est-ce que ça t'a appris quelque chose?
Bah moi, en tant qu'étudiante en droit, ce qui m'a choquée surtout, c'est donc le vide juridique, hein, et la stérilité. Qu'on est censé être dans un pays qui vante les valeurs républicaines, hein, égalité, liberté, fraternité. Et là, je pense qu'il y a vraiment du travail à faire sur ce point-là.
Didier, notre vice-président, est-ce qu'il est content de cette émission? Est-ce qu'on est reconduit pour une future émission?
Pour une future, bon, bah ça, oui, pourquoi pas, mais moi, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, j'ai découvert plein de choses. Ce qui me dérange un petit peu dans tout cela, c'est que quand on décide de changer de sexe, ouais, en fin de compte, est-ce que... Enfin, c'est une question que je pose, parce que je crois que Sylvain l'a un petit peu abordé tout à l'heure, le reste. Le fait de dire, bon, bah tiens, j'ai envie d'être une femme, ou l'inverse.
Alors, on la posera dans une autre question. Didier, je suis désolé, parce que là, il ne nous reste plus qu'une minute, et on va faire les remerciements. Je suis désolé, bon, mais là, on arrive à la fin de l'émission.
Bonne chance pour l'émission.
Et on en fera une autre dans la deuxième saison, puisqu'il y aura une deuxième saison de Ce n'est que de l'amour. Un grand merci à nos invités, et... S et ES, à mon mari radiophonique Julien Gély, à notre public, avec mes amis, alors Julie et mes amis d'Equinox Nancy Lorraine, mon petit Hakim, mon bel Aurélien et mon beau Florent. Merci aux artistes et à Erwan, c'est toujours un régal d'avoir ce genre de programmation.
N'oubliez pas l'email de l'émission pour nous écrire et commenter amour.rcn@gmail.com.
Merci à toute l'équipe de RCN, j'embrasse ma maman, Michel, Claudie, Isidore, et aussi notre amie Delphine qui n'a pas pu être là. On se retrouve bientôt.
Rendez-vous le mardi 17 mai à 17h en direct sur RCN pour une spéciale émeute de Stonewall, Gay Pride et Marche des Fiertés Lorraine 2011. Nous revisiterons ensemble l'histoire du mouvement homosexuel.
Et vous retrouverez aussi toutes les indications sur tous les sites, sur l'Étoile Rose, sur le site de Transed et sur le site de la radio. Et surtout n'oubliez pas, homo et hétéro, aimez-vous les uns les autres et sortez couverts.
RCN 90.7 FM présente...